Décryptage, Sébastien Farcy.
Cannabis, cocaïne, ecstasy ou méthamphétamine, la liste des drogues qui circulent illégalement en France ne cesse de s'allonger. Et en dehors des effets sur la santé des consommateurs, ce trafic tue de plus en plus. 250 assassinats liés au crime organisé ces deux dernières années, soit une augmentation de 30% en deux ans, sans parler des nombreux blessés qui sont parfois de simples passants. Rennes, Grenoble, les coups de Kalachnikov résonnent maintenant aussi dans les plus petites villes. Certains politiciens parlent même d'une mexicanisation de la France. Alors, pour y répondre, les parlementaires viennent d'adopter une nouvelle loi contre le narcotrafic qui s'inspire de la lutte contre le terrorisme. Déjà, des dizaines de détenus sont envoyés à l'isolement strict. Alors, ces mesures sont-elles suffisantes à l'heure des messageries cryptées des réseaux multinationaux? Comment les États peuvent-ils lutter efficacement contre ce crime organisé? C'est ce que nous essaierons de voir ce soir dans Décryptage. Et pour y répondre, j'accueille deux invités. Christophe Corel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec moi en studio. Vous êtes analyste criminel pour le ministère de la Justice et ancien enquêteur à la police judiciaire. Vous avez récemment publié un livre intitulé « Le crime organisé en France, le comprendre pour mieux le combattre » aux éditions de Noël. Et en ligne, Michel Gandilon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes expert associé au pôle sécurité-défense du Conservatoire national des arts et métiers, auteur de « Géopolitique du crime organisé » aux éditions Erol. Et avant de venir à vous deux, nous nous rendons à Marseille, ville française la plus touchée par ces violences, et où il y a quelques jours, le procureur annonçait l'arrestation d'une vingtaine de trafiquants du clan dit de la Castellane.
L'enquête aura duré 16 mois et aboutit entre autres à l'interpellation de 8 gérants des principaux points de deal du clan de la Castellane, explique Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille.
Nous cherchons tous les jours à remonter, à démanteler les trafics et les réseaux, mais là on est parti de la tête. Les personnes ont été interpellées, ceux qui n'ont pas été interpellés sont actuellement en fuite.
Des interpellations rendues possibles grâce à l'infiltration du clan via la messagerie cryptée exclue, une véritable boîte de Pandore pour les enquêteurs qui découvrent toute l'organisation du réseau.
L'ensemble de l'organisation, sa méthodologie, ses modes de travail ont été mis à jour.
Sont ainsi dévoilées l'identité du chef du clan, mais aussi les activités allant du trafic de stupéfiants en passant par l'extorsion, le trafic d'armes et le crime en bande organisée. Un réseau au fonctionnement pyramidal et aux recettes exponentielles.
Le chiffre d'affaires annuel avoisine les 15 millions d'euros. On peut même chiffrer entre 30 et 40 millions d'euros relevés dans les années 2022 et 2023.
Le procureur de la République termine en expliquant rester prudent si la Castellane est aujourd'hui calme. Ces moments de répit sont souvent l'occasion pour d'autres réseaux de trafiquants de venir récupérer les points de deal restés vacants. Siam Spencer, Marseille, RFI.
À Marseille donc, Marseille, la ville la plus touchée par ces violences liées au trafic de drogue. Christophe Corel, c'est en effet là où se trouve l'essentiel de ces victimes des dernières années, à cause entre autres de la guerre qui a sévi entre deux clans, la DZ Mafia et Yoda. Alors pourquoi Marseille? Qu'est-ce qui fait sa spécificité dans le domaine en France? Et est-ce que ce qui se passe à Marseille peut s'étendre à d'autres villes françaises, Christophe Corel?
Il faut se souvenir juste que Marseille a une histoire de crime en fait. On parlait il y a 40-50 ans de la French Connection déjà, donc il y a toujours une criminalité bien particulière sur Marseille, et je dirais même souvent peut-être en avance malheureusement. Donc oui, si vous me demandez si effectivement on peut s'attendre à ce qu'une telle criminalité s'élargisse sur le territoire, c'est déjà le cas. Donc Marseille est en avance, mais les voyous marseillais, si je puis dire, commencent même à s'exporter partout en France, puisqu'on s'aperçoit que certains auteurs de règlements de compte ailleurs en France, sur le territoire, proviennent aussi parfois de ce secteur-là. Donc oui, ça s'exporte et oui, ça se généralise. Aujourd'hui, Marseille est une grosse plaque tournante du stupéfiant, comme la région lyonnaise, comme la région parisienne notamment. Mais aujourd'hui, on a des villes moyennes qui commencent à être très impactées, y compris par les règlements de compte, et même des petits villages dans la ruralité qui sont impactés par des petits points de deal parfois. Donc, il y a une évolution. Moi, je dis toujours, en fait, et je pense qu'on a une vraie prise de conscience de notre classe politique récemment, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le crime organisé est au moins aussi dangereux que ne l'est le terrorisme en France. en France et d'ailleurs un peu partout en Europe, voire dans le monde. Donc il faut prendre conscience de cela. On a une nouvelle loi qui a été votée maintenant par nos députés et par nos sénateurs. C'est une avancée. C'est ce qu'il y a déjà du mieux, mais on doit encore avancer pour se mettre à jour et toujours essayer de rétrécir ce retard qu'on a toujours sur les criminels.
Alors Michel Gandillon, vous avez suivi ce trafic depuis longtemps, un trafic de drogue qui n'est pas nouveau en France, hein, il est là depuis longtemps, mais il est de plus en plus violent. Alors à quoi est-ce que cette violence est due? Le marché est-il saturé, ce qui entraîne plus de concurrence? Pourquoi autant de violence armée en ce moment?
Alors, je dirais d'abord que le marché des drogues en France, c'est une vieille histoire. Hein. L'intervenant parlait de la French Connection dans les années 60. Hein. Il faut savoir que dans les années 60, 70% de l'héroïne qui arrivait aux États-Unis provenait et produite dans la région marseillaise. Ce qui s'est passé depuis, en fait, c'est la drogue phare pour les trafiquants, c'est plus l'héroïne, c'est aujourd'hui la cocaïne. C'est le marché le plus dynamique du moment. L'offre internationale a considérablement cru ces 10 dernières années, hein, puisque oui. La production en Colombie a été multipliée par 7. Et surtout, le marché de la cocaïne en France explose littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Puisque entre 2017 et 2023, les consommations ont augmenté de presque 60% en France. L'épidémie des saisies de cocaïne est ascensionnelle également. Dans les années 90, on saisit 7 tonnes en moyenne par an. Dans les années 2000, 5 tonnes. Dans les années 2010, pas 11 tonnes. Et depuis le début de la décennie 2020, on est à peu près une vingtaine de tonnes saisies par an.
Oui, donc oui, tout à fait.
D'argent, c'est des milliards d'euros et effectivement, les criminels.
On va vous reprendre, Michel Gandillon, la ligne n'est pas très stable, on va vous reprendre et vous rappeler tout de suite. Christophe Corel, justement, sur cette question de la violence armée, on voit quand même de plus en plus de liens maintenant entre la drogue et les autres faits de crimes organisés, le trafic d'armes et d'autres trafics. Donc, c'est une expansion du trafic de drogue. On n'est plus seulement sur de la drogue.
On n'est plus seulement sur de la drogue. Juste, je vais rebondir rapidement sur ce que vous disiez sur la saturation du marché. Aujourd'hui, on a de plus en plus de surfaces cultivées en Amérique du Sud, ce qui fait aussi qu'avec des États-Unis qui ont un marché complètement saturé, aujourd'hui, les nouveaux clients, si je puis dire, de la cocaïne sont les pays d'Europe, en fait. Hein. C'est aussi pour ça, en fait. Hein. C'est qu'on a vraiment un marché américain saturé et des surfaces cultivées de plus en plus importantes sur des territoires comme la Colombie. Pour revenir à votre question, effectivement, on se rend compte qu'il y a un gros changement dans les groupes criminels. Si il y a encore 20-30 ans peut-être, on pouvait se dire qu'on avait des groupes criminels spécialisés dans la cocaïne, qui étaient dans le haut du panier quand même, on va dire, des voyous. Des groupes criminels qui étaient spécialisés dans le cannabis, d'autres qui étaient spécialisés dans les braquages, des choses comme ça. Donc, si vous voulez, chacun avait son petit couloir de nage, si je puis dire, et chacun œuvrait dans sa matière... à un niveau plus ou moins important. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, et ça c'est notamment, on parlait tout à l'heure effectivement de cette affaire à Marseille qui a été résolue grâce à une messagerie cryptée, et bien, ce sont des affaires, deux autres affaires de messagerie cryptée qui s'appellent SkyOCC en crochette, qui ont été révélées il y a 5 ans, qui nous ont appris en fait un certain nombre de choses et qui ont révolutionné, si je puis dire, la façon de voir et de concevoir le crime organisé aujourd'hui en France et d'ailleurs, je crois, en Europe. Aujourd'hui, on est complètement déstructuré par rapport à ce qu'on connaissait, si bien qu'aujourd'hui, on a plusieurs catégories en fonction de chacun de sa spécialité, mais pas de la spécialité criminelle, plutôt de son savoir-faire. C'est-à-dire que vous avez ceux qui savent blanchir, vous avez ceux qui savent trouver le matériel, comme les voitures, comme les armes, comme, etc. Et chacun a sa spécialité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui un groupe criminel qui, aujourd'hui, a un projet bien en place. Ça peut être un braquage, ça peut être un trafic de stupéfiants. Toutes ces personnes-là vont se réunir, s'associer, et au lendemain de la réussite ou pas de leur affaire, vont se séparer comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Donc finalement, on a vraiment ce changement fondamental qu'on a dans les groupes criminels en Europe aujourd'hui.
Et Michel Gandillon, justement, je crois qu'on vous a retrouvé, justement. Oui, tout à fait. Par rapport à cette, euh, par rapport à cette question de la spécialisation maintenant, mais dans un système plus général de crime organisé. Qu'est-ce que vous en dites sur ce changement? Est-ce que c'est cela que l'on appelle la mexicanisation évoquée par le ministre de l'Intérieur, cette plus grande violence, cette généralisation?
Ben, quand on parle de mexicanisation, oui, on fait allusion essentiellement à la violence et à la corruption, c'est-à-dire à la perspective effectivement de constitution en France d'un éventuel narco-État. Alors moi, je suis très critique sur cette notion de mexicanisation parce que la situation au Mexique, alors les règlements de compte, des actes de torture et de barbarie, n'est pas du tout la même. Mmh. Au Mexique, depuis 2006, depuis qu'a été déclenchée la guerre à la drogue de l'État mexicain contre les cartels, des centaines de milliers de personnes sont mortes, des 100 000 ont disparu, 8 millions de personnes ont été déplacées, des pans entiers de la police et de l'armée sont corrompus par les cartels, qui sont d'ailleurs infiniment plus puissants que les organisations criminelles qu'on trouve en France. Donc je trouve que cette comparaison avec le Mexique est plutôt déplacée.
Est-ce qu'il vient de le rappeler?
Oui, il faut le rappeler. Il n'empêche qu'effectivement, la situation en France se dégrade régulièrement depuis une vingtaine d'années, à mesure du grossissement du marché des drogues, que la situation est grave, mais que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mexique.
Ouais, une aggravation, Christophe Corel. Pour y faire face, donc, vous parliez de la loi qui vient d'être adoptée fin avril par le Parlement. Elle crée entre autres le parquet national anti-criminalité organisée, un système carcéral plus strict, une refonte aussi du système des repentis. Alors, selon vous, qui avez participé à cette lutte, est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux?
Déjà, c'est une prise de conscience quand même. On s'est rendu compte, effectivement, en 2023, avec l'accumulation des homicides à Marseille, la classe politique vraiment s'est rendue compte. Malheureusement, il a fallu des meurtres, beaucoup de meurtres pour s'en rendre compte. Mais en tout état de cause, moi, quand j'ai commencé mon projet de livre au tout début 2003, je le faisais surtout parce que personne n'en parlait, en fait. Moi, je voyais bien ce qui se passait, je voyais les titres dans la presse, mais de plus en plus sur le crime organisé en France. Mais finalement, personne ne faisait cette synthèse. Donc, c'est ce que j'avais envie de faire, moi, justement, d'expliquer au plus grand nombre, de dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le crime organisé en France, à quoi on a à faire face et comment nos institutions sont organisées. Et puis, il se trouve que, donc il y a eu Marseille avec plusieurs dizaines d'homicides, et le Sénat qui a commencé à mettre en place une commission aussi chargée de réfléchir justement sur l'impact du narcotrafic en France. Donc c'est déjà une prise de conscience. Alors oui, le PNACO, c'est une bonne avancée. Il nous fallait un parquet national anticriminalité organisée qui devra, à mon sens, chapeauter un petit peu tout ce qui concerne les services de Crimorg côté justice, c'est-à-dire à la fois les juridictions interrégionales spécialisées dans les provinces, mais aussi Paris. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision un petit peu de hauteur, si je puis dire, et de tracer une ligne, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, comme le fait le parquet national antiterroriste notamment. Donc on s'est juste mis au niveau de ce qui existe en matière de terrorisme. On peut aussi, c'est pas dans la loi narcotrafic, mais on peut aussi en parler, puisqu'aujourd'hui la police judiciaire va créer un état-major de lutte contre le crime organisé. Oui. Donc ça fait aussi partie des mesures qui font ce package, si je puis dire, qui fait que nos institutions progressent et avancent effectivement dans la lutte contre le crime organisé.
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de niveau? C'est-à-dire qu'on on était jusqu'à présent sur des systèmes régionaux, maintenant national, plus interministériel, mais on sait que le crime organisé est international, utilise des messageries cryptées très difficiles à pénétrer. Est-ce qu'il faut plus se coordonner avec les pays voisins, comme le fait Europol, entre autres?
Alors, on a deux instances, on a Europol et Eurojust, qui travaillent avec nous. Et ce sont deux instances qui sont d'une grande aide aux enquêteurs et aux magistrats, sans parler du fait qu'on arrive aussi à travailler parfois en direct avec les pays. Donc on a un système qui fonctionne plutôt pas mal, en fait, hein, quand même. Hein. Donc on est bien avancé. On peut toujours s'améliorer. Hein. Mm-hmm. Mais déjà, tout ce qui est l'entraide entre les pays européens fonctionne déjà pas trop mal. Alors on peut toujours avoir des soucis, on a toujours des choses à améliorer, c'est évident. Mais au niveau européen, ça fonctionne déjà pas mal. Avec un certain nombre de pays à l'international aussi. On peut parler de Dubaï, qu'on cite souvent parce que c'est un refuge pour les narcotrafiquants. Même là, je pense que dans les deux, trois ans, je pense qu'on aura des résultats très intéressants là-bas. Il faut rappeler qu'ont été déployés à la fois un officier de liaison de la police à Dubaï, mais aussi un magistrat de liaison qui ont vocation justement à travailler et empêcher que nos narcotrafiquants puissent se cacher par là-bas. Après, il ne faut pas se mentir, on résoudra peut-être le problème de Dubaï, mais ils trouveront un autre endroit pour se cacher, c'est un petit peu infini si vous voulez. Hein.
C'est comme les paradis fiscaux.
Exactement, c'est les paradis fiscaux ou alors les pays avec lesquels on a des difficultés diplomatiques. Il y en a encore quelques-uns.
Michel Gandillon, on parle de l'offre aussi qui évolue. La vente de cocaïne stagne, on parle de plus en plus de drogues de synthèse, très addictives. Je vais faire un pas de côté, juste un grand nombre de politiciens de gauche recommandent, eux, la légalisation du cannabis pour pouvoir mieux se concentrer sur le trafic des nouvelles drogues et des drogues dures. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une solution dans la lutte contre la violence de la drogue en général ?
Alors, vous avez dit que la vente de cocaïne stagnait. Au contraire, elle explose. Hein. Aujourd'hui, je vous ai dit au début de mon intervention que c'était le marché de la cocaïne qui était le plus porteur aujourd'hui, avec les drogues de synthèse comme l'ecstasy qui est produite en Hollande et en Belgique. Donc, pour la question de la légalisation du cannabis, ce qu'on observe dans les pays qui ont légalisé le cannabis, et on commence à avoir pas mal de recul, hein, puisque aux États-Unis, il y a près de 27 États américains qui ont légalisé le cannabis. Ce qu'on voit, c'est que le marché parallèle, le marché noir, continue dans des proportions relativement significatives. Donc, la légalisation, de toute façon, ne résoudra pas tout. Il restera toujours une marge de manœuvre pour contourner les législations de légalisation et poursuivre les trafics et le marché noir. Donc, on peut éventuellement envisager, pour toutes sortes de raisons, la légalisation du cannabis, mais ça ne résoudra pas le problème de l'explosion des trafics de cocaïne, de drogues de synthèse. Et de drogues de synthèse encore plus dangereuses, telles les opioïdes de synthèse, comme le fentanyl, qui ne sont pas arrivés encore en Europe, mais qui, du fait de l'effondrement de la production d'héroïne en Afghanistan, pourraient s'immiscer sur le marché européen de manière beaucoup plus significative.
Et plus addictive aussi, ce sont des drogues aussi très addictives.
Oui, ben une drogue comme le fentanyl qui tue des dizaines de milliers d'Américains chaque année, hein, environ 75 000 en 2023, et on estime 100 fois plus puissant que la morphine, 50 fois plus puissant que l'héroïne.
Ouais, tout à fait. Donc, vous vouliez commenter là-dessus ?
Ouais, il faut bien comprendre le danger de ces drogues de synthèse. Déjà, on en saisit chaque année plus en France aussi, on en parle assez peu, mais c'est quand même aussi, chaque année, on en saisit de plus en plus. Et il faut aussi comprendre que, à la fois, le cannabis et la cocaïne ont besoin d'un climat particulier pour pouvoir pousser, tout simplement, que ce soit en Afrique du Nord ou en Amérique du Sud. Par contre, les drogues de synthèse, vous faites ça dans un garage, en fait, avec des produits chimiques que vous faites venir n'importe où. Quel que soit le climat, quelle que soit la température que vous avez, qu'il fasse moins 10 dehors ou qu'il fasse 40, c'est pareil. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire, finalement. Donc, il est là le danger, en fait. Et effectivement, le fentanyl, on le voit en Amérique du Nord, les ravages que ça fait, les milliers de morts qu'on a chaque année aux États-Unis, voire au Canada, je crois aussi. Donc, ce sera un danger qu'il faudra observer de très près. Et je suis assez d'accord pour dire que légaliser le cannabis ne résoudra pas la problématique des groupes criminels. Et on l'a vu, je fais un retour arrière encore avec les États-Unis, la prohibition. Quand on avait effectivement la prohibition, donc c'est là que les mafias ont commencé à prospérer. Mais quand on a arrêté la prohibition et qu'on a de nouveau légalisé l'alcool, c'est pas pour autant que les mafias ont arrêté de fonctionner. Au contraire, elles se sont rabattues sur d'autres marchés.
Ouais, tout à fait. En attendant, on attendra la promulgation de la loi qui a été adoptée par le Parlement. Et je vous remercie à tous les deux pour votre intervention. Christophe Corel, je rappelle que vous êtes analyste criminel pour le ministère de la Justice. Vous avez écrit « Le crime organisé en France, le comprendre pour mieux le combattre » aux éditions de Noël. Et en ligne, merci à vous, Michel Gandillon, expert associé au pôle Sécurité Défense au Conservatoire National des Arts et Métiers et auteur de « Géopolitique du crime organisé » aux éditions Erol.